Adi Shots à toutes et à tous. Le Rock Farmer Radio Show, le 10e du nom, c'est parti. Cette émission sera sous la thématique du blues. Vous êtes nombreux à nous la demander, et ce depuis un petit moment. Et apparemment, c'est pareil sur le champ, ou des trucs un peu spécialisés. Alors on va vous faire plaisir, on va vous faire d'abord le blues. On va vous faire comme d'hab, on va essayer de vous partager de façon non technique, mais des codes, des angles d'écoute, des référentiels différents pour l'apprécier à sa juste valeur. Depuis qu'on a eu une initiation au Bourgogne, le vin, pas la musique, grâce à un œnologue du côté de Dijon, le Bourgogne sera toujours notre blues à nous, à moins que ce ne soit le blues qui est notre Bourgogne. Ouais, faisons donc de l'œnologie pour le blues et parlons donc du ressenti, car c'est l'essentiel sur cette musique, et aussi ce que nous avons appris, notamment aux USA. Ça permettra de comprendre un langage commun d'une musique commune, le blues. C'est donc le dernier radio show avant l'été, et nous reprendrons à la rentrée, soit en septembre, comme vos serviteurs, nous. Car ben, en juin, c'est la grosse tournée, on a beaucoup de dates dans toute l'Europe, évidemment le Hellfest, vendredi 17 juin, 15h, grande scène, ça va être du sport, puisque vous allez être à peu près 20 000 et on sera que deux, sans ordi, donc ça va être quelque chose. Et le concert exclusif des arènes de Monde 2, le 13 juillet, avec le Symphonique de Pau, dans une autre ambiance. Ouais, mais promis, on reprendra à la rentrée, avant la sortie de l'album en janvier 2023. Après, ce sera plus compliqué, vu la tournée qui s'annonce. Alors le blues, c'est quoi? En tout cas, c'est pas ça. Alors c'est quoi le blues? On peut en faire plein de définitions. Version puriste ou version plus ouverte. On va vous en faire une version ouverte. C'est une musique traditionnelle née en Afrique et développée dans sa forme moderne aux États-Unis par les esclaves africains enlevés et vendus dans le cadre du commerce triangulaire des Européens, notamment dans les villes portuaires de la façade atlantique française, c'est-à-dire Bordeaux, La Rochelle, Nantes, etc. On utilise le mot traditionnel dans la définition car c'est une musique qui appartient à la culture populaire, comme le flamenco, la folk, la cumbia, le gospel, le rondo pour nous, le tango pour les Argentins, etc. Ou même ici, plus proche, par exemple, Nadao, qui peut être considéré comme un groupe dit traditionnel, selon nos traditions gasconnes, c'est-à-dire qu'il s'adresse à un public donné, dans une langue donnée, avec des codes donnés. Comme tout le monde comprend ces codes, ça en devient quelque chose de patrimonial et intergénérationnel, les enfants pouvant être initiés par leurs parents, par leurs grands-parents, ou les petits-fils avec les grands-parents, etc. Car tout le monde est baigné dans les mêmes repères, les mêmes codes, les mêmes référentiels. C'est ça qu'on appelle une musique traditionnelle. Le blues est toujours issu de milieux ouvriers, d'usines, humbles, de paysans. C'est une de ses particularités, parce que c'est une complainte, une façon d'expulser la dureté de la vie. On retrouve donc dans ce côté répétitif la routine souvent pénible des travaux des champs de l'usine. Il est souvent joué par des autodidactes, car issus de milieux qui n'avaient ni les moyens d'aller à l'école et encore moins d'avoir un apprentissage musical. C'est là qu'il tire son côté passionnant, en cassant les codes. Car un peu comme dans les langues rurales, qui manquent de mots pour décrire les choses, le blues, car un peu comme les langues rurales qui manquent de mots et qui utilisent donc des images, des métaphores pour exprimer une idée que l'universitaire français verbeux mettrait à peu près 2 heures à exprimer, le blues est souvent fait par des musiciens et des musiciennes qui le font avec deux bouts de ficelle au sens littéral du terme. Les Africains, donc déportés dans les champs du sud des États-Unis, ont commencé à tricoter des guitares avec une corde des fois, ou deux cordes, voire trois, pour pouvoir chanter, partager entre eux des moments de plaisir, si on peut parler comme ça, et exécuter des chants, des mélodies souvent ramenées d'Afrique, mais forcément après des générations qui ont été adaptées au pays où ils étaient exploités, c'est-à-dire le sud des États-Unis. C'est évidemment là que le blues a pris sa forme moderne avec des rythmes plus binaires, plus européens, plus occidentaux. Il ne nous a pas échappé que nous, Européens, quand on tape dans les mains, c'est un peu plus martial et moins subtil que des musiciens ou des musiciennes, par exemple, de flamenco ou d'autres peuples non occidentaux de la planète. Et oui, car on ne tape pas tous des mains pour battre le rythme de la même façon sur la planète. C'est ce qu'on appelle les mesures. Culturellement, nous, occidentaux, on est en binaire, c'est-à-dire sur des multiples de 2, soit le plus souvent en 4-4 ou en 2-4. C'est le fameux 1, 2, 3, 4. Alors, vous pouvez le faire en version classique. 1, 2, 3, 4. En jazz, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mais vous pouvez aussi le faire en version Springsteen. 1, 2, 3, 4. Mais ça reste du bon vieux 4-4. On est souvent désorienté, nous Européens, quand on entend les Africains jouer, car pour eux, le rythme est pensé en 6-8 et en 6 multiples. L'afrobeat, par exemple, c'est du 6-8. Ce n'est pas naturel pour eux, notamment, de passer en 4-4. On a pu le vérifier souvent quand on allait jouer à Madagascar ou en Afrique du Sud. Mais par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est vraiment pas naturel pour nous non plus de passer en 6-8. En passant donc de l'Afrique aux USA, le blues a perdu son côté africain rythmiquement, c'est-à-dire le 6-8, mais par contre est devenu le blues, soit un mélange, car il est souvent ternaire. C'est-à-dire, ce n'est ni du 6-8, ni du bon vieux 4-4. 1, 2, 3, 4! De blanc, un peu lourdeau, version métalleux. Mais bien du 3-4, du ternaire. Il peut être joué binaire, mais il sera toujours interprété de façon ternaire. C'est ce qui lui procure ce côté chaloupé et sautillant. Alors promis, on va pas pousser sur le côté technique et on va pas vous saouler, mais c'est important que vous le sachiez, car c'est vraiment une musique à cheval entre la musique blanche occidentale et la musique noire africaine. C'est ce qui lui donne ce côté extrêmement passionnant. Vous rajoutez également des contraintes techniques, par exemple le fait d'avoir qu'une seule corde, hein, faute de moyens, et tout cela créé sur une base harmonique limitée, parce que c'est pas le but d'être bavard ni prétentieux ou sophistiqué comme d'autres styles de musique, mais d'exprimer un sentiment. Du coup, les premiers bluesmen, donc au début du siècle dernier, ont développé des techniques improbables et ingénieuses pour faire tout, tout seul. La mélodie, la rythmique, l'orchestre, avec peu de cordes, voire qu'une seule. C'est le fameux open tuning, c'est-à-dire que souvent, pour compenser le peu de cordes et essayer de sonner comme plusieurs, ils ont vite compris que les accordages standards européens ne suffiraient pas, et donc tout le monde y a été de ses accordages personnels. Chacun développant ainsi des techniques particulières au doigt, le fameux picking, car il n'y avait pas de médiator pour gratter les cordes, le pouce simule souvent la basse et la martèle hypnotiquement sur une corde ou deux, et comme souvent ce sont des pouces de travailleurs ou de paysans, les pouces sont gros et je peux vous dire que ça tape très très fort sur la corde. Les autres doigts font les mélodies et le rythme. Ils utilisent aussi souvent un bottleneck, un goulot de bouteille, pour glisser sur les cordes en même temps que tout cela, développant ainsi cette technique de slide guitare qui était déjà popularisée par les musiciens hawaïens. Donc, open tuning, picking, slide, avec ça vous pouvez sonner comme 15 et occuper l'espace d'un orchestre naturellement. Il existe autant d'open tuning que de bluesmen. Encore une fois, la contrainte technique a accouché d'une invention, comme on en avait déjà parlé dans les premiers radio shows. On commence donc par le pionnier, Robert Johnson, Crossroad Blues, open tuning, finger picking, slide, tout y est. I went to the crossroad, fell down on my knees. Robert Johnson est considéré historiquement comme un des premiers bluesmen. Les spécialistes et historiens s'écharpent sur le sujet, mais il est indéniablement un des premiers et a déposé une sorte de marque de base sur la technique du blues. Pour l'époque, c'était du gros lourd, vachement balèze le type. C'était de la technique de haut vol. Et surtout, révolutionnaire. Car personne ne jouait de la guitare avec des accordages improbables, en utilisant son pouce pour taper la basse et glisser sur les cordes avec un goulot de bouteille, comme souvent de whisky pourri, cassé juste avant. L'imaginaire autour de Robert Johnson est également énorme. Il aurait vendu son âme au diable au Crossroads, soit au croisement de route du Mississippi, en échange d'être le meilleur des meilleurs et donc passer à la postérité. Ça ajoute au romantisme de cette musique et qui a contribué à sa légende selon laquelle c'était la musique du diable. Nous, on pense plutôt que Robert Johnson est sûrement le plus grand maquignon de son époque et qu'il avait avalé un storyteller quand il était jeune et que donc il avait bien compris qu'il fallait raconter un paquet de conneries autour de son concert pour que les gens y viennent. Il est une sorte d'attaché de presse avant l'heure, une sorte de DA de maison de disques avant l'heure. C'est ce que font d'ailleurs les maisons de disques aujourd'hui, c'est-à-dire raconter un récit, qu'il soit vrai ou faux, pour faire une histoire autour de la musique et créer un contexte. Sachez que ça marche tout le temps, mais vaut mieux que ce soit vrai, sinon les artistes le paient sur la longueur. Ça marche toujours sur le court terme, mais sur la longueur, si c'est faux, on se prend vite les pieds dans le tapis. On a rencontré et croisé beaucoup de groupes qui avaient des storytellers ou marketeurs qui racontaient des histoires. Fausse. Ça partait fort, mais sur la fin, ça explosait. Ce qui fait la sincérité d'un groupe, artiste, c'est la durée. Plus ça dure, plus la part de vrai est prédominante, car on ne triche jamais sur la longueur. Robert Johnson finira dans un fossé tué par un mari jaloux. Il n'empêche, musicalement, il a inventé un vrai truc, et on s'en est tous inspirés plus ou moins un jour directement ou indirectement. Qu'on le sache ou pas d'ailleurs. Keith Richards, par exemple, des Rolling Stones, a repris à son compte le fameux accordage et façon de jouer en open de sol de Robert Johnson, et a créé avec cela tous les tubes des Rolling Stones dans une relecture anglaise et européenne, un petit peu opportuniste, mais assez maline, du blues traditionnel américain qui deviendra les fondamentaux du rock'n'roll. Le rock'n'roll est souvent considéré comme le fils du blues, ou plutôt son petit-petit-fils. Car avant le rock'n'roll, il y a eu une étape importante, passant le blues acoustique, sur peu de cordes ou pas, avec les moyens du bord, à une version électrique du blues, celle de Chicago, ce qu'on appelle le Chicago Blues. Sociologiquement et historiquement, après la Grande Dépression des années 30, l'industrialisation voulue par le gouvernement américain a fait migrer beaucoup d'ouvriers et de paysans vers les grandes villes du Nord, Chicago, Détroit, etc., qui offraient un avenir meilleur, enfin ça c'était sur le papier, dans des usines tayloristes, fondement de l'Amérique moderne. Là, en ville, le blues et les bluesmen se sont électrifiés, devenant beaucoup plus sauvages, plus rock, mais toujours dans la plainte, car la vie devenait éclairée, certes, il y avait de la lumière autour, mais l'émancipation n'était toujours pas pour demain et les travaux d'usine restaient encore tout aussi durs que ceux des champs. On passait donc d'un esclavage acoustique à une sorte d'esclavage électrique, mais c'est resté de l'esclavage et de l'exploitation. On le sent d'ailleurs dans ce blues rock de Chicago. Il remue les tripes, donne souvent la chair de poule. Rythmiquement, c'est une sorte de transe ultra violente. C'est souvent du haut vol. C'est ce qu'on appelle rythmiquement le fond de temps. Car souvent la rythmique est toujours un petit peu derrière, mais c'est fait exprès et ça donne ce swing et ce côté, ce caractère méchant. Ça ne court pas après le rythme, ça le ralentit, ça le retient, un petit peu comme un boxeur qui maintient son rythme mais qui met ses coups régulièrement. La répétition, tel un paysan qui travaille sa terre sans jamais s'arrêter, même s'il a mal, même s'il est fatigué, c'est ça le Chicago Blues, et notamment dans l'extrait qu'on va écouter. Le pionnier du blues, Muddy Waters. Attention, c'est sauvage, ça envoie 10 fois plus que les types de l'Iowa, Slipknot, car on sent le danger et on sent la mort. Il n'y a rien et il y a tout. On en parle après et on vous explique pourquoi on a ce ressenti.
Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. At the age of 5, my mother South gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. Boy, I'm a man. Yeah.
You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man?
Yeah.
I spell him H-I-N. That rapper that man. You man. The lion I shoot and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I go down to old Cassie's too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. Setting out that line, I can make love to you, woman, in 5 minutes time. Ain't that a man?
Yeah.
I spell him H-I-N. That rubber band, I'm grown.
Alors voilà, c'était Muddy Waters, le pionnier, entre autres, du blues rock moderne, le Chicago Blues. Pourquoi donc ça envoie autant alors que l'espace sonore paraît aussi vide et qu'on a l'impression qu'il répète toujours la même chose? C'est le fameux « Less is more » dont on parle souvent dans cette émission car il s'applique dans plein de domaines. « Less is more », c'est vraiment la vraie définition du blues. Le moins peut le plus. Par contre, ne vous méprenez pas, ce n'est pas basique, ce n'est pas de base ce dont on parle, c'est de la fausse simplicité. Car moins il y a de notes, plus c'est dur à jouer et à faire sonner, car il y a beaucoup d'espace. Aller vite, c'est assez facile en fait, et c'est à la portée de tous en musique, c'est de la répétition cognitive. Il suffit de bosser comme un robot tous les jours et répéter les mêmes gestes. Le cerveau prendra le relais, créant des liens cognitifs. Par contre, sentir et jouer, c'est autre chose, c'est beaucoup plus complexe, ça s'acquiert avec les années, l'âge et les expériences croisées. C'est d'autres skills, comme on dit en rugby, d'autres compétences. Et là, le morceau qu'on vient d'écouter avec Muddy Waters, c'est du haut vol en termes de skills. Mais c'est naturel pour eux. C'est à cette époque donc là que les Rolling Stones, ou les Beatles, les Who, ou encore les Kings en Angleterre, se fascineront pour ces Afro-Américains faisant cette musique hypnotique et traditionnelle, souvent de façon plutôt sincère et souvent très dépourvue de ce côté maquignon. Car c'était leur tradition, c'était leur vie. Les Anglais en feront quelque chose de beaucoup plus mercantile, avec beaucoup de réussite chez les Beatles ou même les Rolling Stones, même si au début, Mick Jagger, en bon vendeur de voitures qu'il était, sentira plutôt le côté opportuniste. Mais quand Keith Richards et les autres l'assimilèrent pour en faire ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire du rock'n'roll, là ça deviendra quelque chose de nouveau et d'original. Ce Less is More, eh bien, c'est le travail d'une vie, c'est difficile à expliquer techniquement. Pourquoi ça prend autant de place avec rien? Mais sachez que ça se travaille. On le travaille beaucoup, nous par exemple, car à deux, on doit occuper un maximum l'espace, sans basse. Et c'est pas que le bruit qui fait ça. C'est l'open tuning, c'est des techniques de guitare, c'est une solité rythmique, etc., etc. C'est sans triche, sans ordinateur ou tracks derrière. Le blues ne peut avoir de subterfuge. Il ne se cache pas, il est nu, il est à poil. C'est ce qui le rend pur et beau. Quand il est enrobé de confiture, il devient assez affreux. C'est une musique traditionnelle, elle doit respecter certains fondamentaux. La simplicité, l'humilité, faire avec ce que l'on a et venir des tripes. Car on a souffert ou vécu des choses, ça ne changera jamais et restera ainsi. C'est ça le blues. Les Américains ont une phrase qu'ils répètent souvent sur ce sujet, notamment dans le Midwest. If you think that the three kings play exactly the same thing because they play the same chords, and they are, that's just that you don't understand anything about the blues. Ce qui signifie, si tu penses que les trois kings, c'est-à-dire B.B. King, Albert King, Freddie King, jouent la même musique parce qu'ils font les mêmes accords, et c'est ce qu'ils font, c'est que tu ne comprends absolument rien au blues. C'est cash, mais c'est tellement vrai. Harmoniquement, le blues tourne sur des schémas d'accords préétablis. On a l'accord suivant, après tant de mesures, et ça c'est déjà prévu, car il doit être joué, et le suivant, etc. Il y a plusieurs schémas. Le blues sur un accord, qui est plutôt le blues traditionnel du Mississippi du début, acoustique. Le blues est en général sur trois, avec le fameux turnaround, qui est, vous savez, le truc qui fait à la fin, et qu'on attend toujours, et qui est différent à chaque fois en fonction de chaque bluesman. Et il y a le blues en mineur, que Led Zeppelin a popularisé en Europe, avec son fameux Since I've Got Losing You. Mais en gros, il n'y en a pas beaucoup de schémas. La différence donc entre tous les bluesmen est ailleurs, dans le phrasé de guitare, dans le rythme, dans le son, et dans la fameuse interaction chant-guitare. Car rappelez-vous, ils ont tous une façon unique de chanter avec leur instrument, car ils ou elles ont tous appris en dehors d'un enseignement commun normé. Mais c'est de la transmission, par des anciens, et ils ont tous customisé leur truc à eux, avec leur bagage, leur environnement personnel. C'est ça qui est passionnant, et c'est ce que veut dire cette phrase. Il faut aller chercher, chez chaque bluesman, ce qui fait sa force. Mais c'est souvent le travail d'une vie, car le placement voix-guitare et le placement de la voix tout court est un travail de longue haleine. Et donc même si les jeunes peuvent apprendre à mettre les doigts, où il faut, jouer parfaitement, jouer très vite même des fois, l'expérience de vie n'y sera pas, et donc ne sera pas transmise dans la musique et les paroles. D'où cette image d'Épinal, mais tellement vraie, du vieux bluesman assis sur son perron, un peu à la John Lee Hooker, notre papy à tous, avec sa voix caverneuse, et assis, et qui envoie, car il y a toute sa vie dedans et surtout 70 ans de jeu de blues. Et en 70 ans, il s'en passe beaucoup de choses. On va parler maintenant d'un bluesman décédé qui jouait avec les cordes à l'envers, car il était gaucher et donc faisait des tirées de cordes, donc ce qu'on appelle des bends à l'envers. C'est Albert King, un mastard de plus de 1m95, qui du fait d'être gaucher et n'ayant pas de guitare de gaucher à disposition à l'époque, a inversé ses cordes. Et donc on a l'impression, ça a été notre cas pour la première fois qu'on l'a entendu, que ces notes qu'il va chercher sont un peu fausses ou pas exactement justes. C'est le cas, mais pas vraiment, car il a ses bends à lui en tant que gaucher. Et comme McEnroe ou Riton le compte, il trouve des fois un peu des bends avec des angles impossibles. Mais ça marche. On en parle après, l'immense Albert King, Born Under a Bad Sign.
Born on a bad sign. I've been down. calling for bad love. I wouldn't have no kind of love if it wasn't for real bad love. I wouldn't have no love at all. You know, wine and women is all I crave. A big leg woman gonna carry me to my grave. Born on the bad side. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I tell you I wouldn't have no luck at all.
Albert King, donc, qui a fait partie de ceux qui ont commencé à raffiner ce blues de Chicago avec des cuivres, piano, etc. On se rapproche d'ailleurs de plus en plus du rhythm and blues qui fera sa vie à côté, une sorte de cousin du blues. Alors ce blues-là, celui dont on vous parle, c'est celui du cadre traditionnel, celui que les puristes considèrent comme étant le vrai blues. Après, vu la définition et les ingrédients dont on a parlé, on peut développer. Certes, les puristes vont perdre le peu de cheveux qui leur restent, parce qu'ils sont vieux. Mais le blues, qui est parti d'un mélange, est en perpétuelle évolution. Et chaque pays a son propre blues. Il n'est pas codé, comme on vient d'en parler. Par exemple, Jimi Hendrix, qui a été jeune guitariste rythmique pour Albert King. C'était son mentor. Il partage d'ailleurs avec lui le fait d'être gaucher. Les puristes considèrent que c'est pas du blues, Jimi Hendrix, mais c'est du blues rock. Bref, c'est de la sémantique. C'est en fait la suite. Il s'en inspire. Jimi Hendrix connaissait le blues sur le bout des doigts, mais écrira ses propres chansons au sens du mot songwriting, c'est-à-dire qu'il cassera les codes des enchaînements d'accords traditionnels et imposés. C'est intéressant donc, parce que ça amène les choses beaucoup plus loin. Et pour nous, c'est du blues. Comme dit Vince Powell, à partir du moment où c'est connecté aux éléments, à la terre, à la dureté du labeur, même si le contexte a évolué, même s'il n'y a pas trois accords qui s'enchaînent et cantonnés à ça, ça reste du blues. Car ce serait oublier que le blues vient d'Afrique et qu'il est lui-même une évolution de musique traditionnelle. Donc pour nous, et comme pour beaucoup de gens, beaucoup de musiques peuvent être appelées le blues. Par exemple, ça, c'est du blues Touareg. C'est du désert, c'est Tinarewen et c'est actuel. Et évidemment, on revient au bon vieux 6-8. Gina Rewen fait une très belle carrière aux États-Unis et notamment dans des endroits où le blues est né, c'est-à-dire dans le Midwest. C'est un pulse, une façon de voir la vie. Toujours assez détaché, assez laid back comme on dit, et il est toujours dans le roots, côté simple, dépouillé. Alors cette musique a engendré un paquet de pistoleros improbables. Pistolero, c'est un guitariste. Car le moyen d'expression le plus courant dans le blues, c'est pas le Colt comme dans le Midwest, mais c'est son cousin version musique, la guitare électrique. Il y a du coup des écoles de guitaristes. On en avait déjà parlé un petit peu avec les Texans notamment. Billy Gibbons de ZZ Top, Stevie Ray Vaughan, son frère aussi, Jimmy Ray Vaughan, le génie parti trop tôt, ou encore notre ami Tyler Bryant, qui ont cette façon si typique de jouer des Texans. Ou encore l'immense et la brute Freddie King. Mais un de nos préférés, Texan, est sans nul doute le grand Albert Collins, qui est aussi une sorte de brutasse, mais subtil. On l'appelait « ice picking », c'est-à-dire le pic à glace, parce qu'il avait une façon brutale de tirer les cordes à la main de sa Telecaster, qui est déjà une guitare assez aiguë, pour en sortir ce son cristallin un peu cassant, et souvent d'ailleurs il cassait les cordes et il les défonçait. Il est noté que les bluesmen n'utilisent jamais de pédales d'effet, un petit peu comme les jazzmen, ils se branchent directement sur les amplis et tirent un niveau différent de saturation de leur gestion unique et particulière des potards. Les potards, c'est ces boutons sur la guitare qui gèrent le niveau d'entrée des micros de la guitare. En général, il y en a deux sur une guitare. Il y a celui du manche, c'est-à-dire celui qui est le plus près du manche. Il a un son un peu plus ambré, un peu plus grave, un peu plus velouté. C'est souvent sur des parties plus calmes. Soit au plus près du chevalet, c'est-à-dire de l'autre côté, le plus au fond de la guitare. Et là, c'est plutôt pour envoyer le pâté. Les bluesmen dosent comme des peintres le niveau de saturation, un petit peu comme les peintres dosent le niveau de blanc ou de noir, un petit peu ici, un petit peu là, juste en touchant les potards. C'est tout un art et ça se travaille. Donc en gros, si vous maîtrisez cette technique, vous pouvez vous passer de pédale d'effet et vous pouvez jouer sur n'importe quel ampli dans le monde. Ça sonnera tout le temps, car en blues, plus que dans n'importe quel style de musique, c'est les doigts qui font le son et pas le matos. Souvent, ces guitaristes travaillent le fameux tone, dont on avait déjà parlé, pendant des années, c'est-à-dire le son, ou travaillent leur sustain, c'est-à-dire la longueur de note liée à un tiré, un bend. Albert Collins était un orfèvre de cela, d'ailleurs il a inventé ce qu'on appelle le tout droit, c'est-à-dire qu'en gros il tenait une note en bend pendant tout l'intervalle des trois accords du blues, sans jamais s'arrêter, alors qu'il n'avait pas un gros niveau de saturation, c'était juste la puissance qu'il exerçait avec sa main. Je pense qu'il valait pas mieux lui serrer la main, il devait vous la casser. On va écouter justement un blues en mineur, et on en parle après, d'Albert Collins, et pensez bien qu'en écoutant, tous les sons différents de la guitare qui sont utilisés sont le même, il n'y a pas de pédale d'effet, c'est juste lui qui gère ses potards en permanence avec ses doigts. Ça s'appelle Cold Cold Feeling, Albert Collins.
It's just like ice around my heart. I've got a cold, cold feeling, yeah, yeah. It's just like ice around my heart. I know I'm gonna quit somebody. Every time that feeling starts, you treat me like a prisoner because my hands are tied. Everything you do to me is stacking up inside. It's a cold, cold feeling, yeah. It's just like ice around my heart. I know I'm gonna quit somebody. Every time that feeling starts, I
baby. Once I was blind, but now I can see. There's a change in me, baby. Once I was blind, but now I can see. I'm gonna put everybody down, baby. That ever made a fool of me.
Ça, c'était un blues en mineur. C'est souvent les plus expressifs, les plus tristes. Mais si le chanteur et la guitare sont en diapason, ça donne les poils. Et c'est sûrement le plus dur. Les accords mineurs lui donnent quelque chose de dense. Pour nous, c'est là où on voit les vrais. Car il faut utiliser une palette énorme de nuances pour le rendre vivant. On va donc finir par celui qui est un des piliers actuels du blues américain, cheville ouvrière, Walter Trout. On le passe souvent. Il fait partie de ces ouvriers, c'est-à-dire, c'est pas du tout péjoratif, c'est justement un compliment dans notre bouche. C'est au contraire un signe de qualité et d'authenticité dans ce style de musique. Walter a appris avec B.B. King, puisqu'il a été son guitariste rythmique, et il a sillonné les routes US. Ce genre de mec a fait à peu près entre 15 000 et 20 000 concerts, minimum même, dans sa vie, jouant dans toutes les conditions, bars, clubs, etc. Car comme vous l'avez compris, cette musique-là ne s'accommode pas trop de paillettes. Et chaque fois qu'il y en a, à l'image d'un boxeur qui oublierait d'où il vient en s'embourgeoisant, il y a souvent une punition immédiate sur le combat suivant. On nous a souvent posé deux questions durant toute notre carrière. La première, c'est « Êtes-vous un artiste de blues ?» On répond « Oui ». En tout cas, beaucoup de gens le pensent. Classic Rock Magazine, en Angleterre, nous ayant élu dans les 15 artistes de blues modernes à suivre en 2021. Il y avait Jack White aussi. Même si pour lui, son côté récent, paillette, hipster et rockstar ne sied pas vraiment au style de musique comme on vient de le dire. Mais c'est son choix. Et la deuxième question qu'on nous a souvent posée, c'est « Peut-on faire du blues en France ?» La réponse est oui, car on peut faire du blues dans le monde entier. Mais c'est à une seule condition, ou plutôt à plusieurs conditions. C'est d'y mettre les ingrédients et les fondamentaux pour que cette musique existe. Évidemment, en France, le confort des musiciens, dû au système subventionné et aidé, ce qui est très bien, mais n'aide pas vraiment à faire du blues. Ça fait qu'il est difficile de se rapprocher des fondamentaux que requiert cette musique. Faut donc choisir des combats, si on reste ici, ou avoir une vie simple, voire dure, et rester dans une forme d'inconfort volontaire et assumé. Peut-être à l'image d'un boxeur, vivre simplement et refuser tout embourgeoisement. Sans ça, c'est difficile de faire du blues sincère. C'est ce qu'on essaie de faire à la ferme et dans nos combats agricoles. Bref, si on devait finir par une boutade, il vaut mieux ne pas avoir le chauffage central l'hiver. On finit donc avec Walter Trout et son fameux Me, My Guitar and the Blues, qu'il a hissé dans le top des charts en 2019 sur les radios commerciales américaines. Il a donc ouvert la porte aux jeunes générations, comme Kingfish, dont on vous parle, mais c'est Walter qui les a ouverts, le vieux, le vrai. Blues en mineur donc, pour finir. La voix y est tellement convaincante, montez le son, fermez les yeux, il parle de sa vie. Il la chante, la voix est exceptionnelle. Il parle de son choix de servir cette musique, de souffrir avec cette musique, d'assumer et d'être juste un serviteur du blues. Écoutez la fin particulièrement avec la guitare durant trois tours entiers de blues. En général, c'est plutôt un ou deux maximum en solo. Là, il relance trois fois des 22, si on peut dire. C'est très courageux de sa part, surtout en fin de chanson. Et ça marche, car il a le vocabulaire, évidemment, pour le faire. Il a un phrasé à sa guitare qui hérisse les poils en parlant littéralement via sa guitare et faisant corps avec elle. C'est rare avec cet instrument. Seuls les grands savaient le faire, et encore de temps en temps, comme Jimi Hendrix ou Albert King. Là, ça a été enregistré et gravé dans cet enregistrement. Les radios commerciales américaines ne s'y sont pas trompées. On entend donc tout ça dans ce morceau. Il n'y a rien et il y a tout. La vie et la mort, c'est Walter Trout, c'est le blues. Allez, chats.
I know I got to go. Yes, I did.